Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Sébastien Rocher. Vous êtes politologue, spécialiste de la délinquance et de la police. Il est question d'une réforme de la police, une réforme de la police qui rappelle une phrase, une petite phrase de Nicolas Sarkozy.
Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation.
Le ministre de l'Intérieur lancera dans les prochains jours la consultation justement pour mettre en place cette police de sécurité du quotidien à laquelle je me suis engagé. Cette police de sécurité du quotidien, elle aura dans ses priorités la lutte contre le harcèlement et en particulier dans les transports, puisque c'est beaucoup là que ça se joue aussi. Et donc oui, je souhaite que nous puissions avoir une procédure plus simple de verbalisation lorsque de tels actes sont commis pour qu'il y ait une réponse immédiate.
De Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, Sébastien Rocher, il est question donc aujourd'hui d'une réforme de la police et il n'est pas inutile tout d'abord de rappeler en quoi consistera cette réforme de la police mise en œuvre donc par Emmanuel Macron et Gérard Collomb, son ministre de l'Intérieur.
Alors la réforme n'a pas encore été mise en œuvre, donc c'est une réforme qui se dessine. La particularité, disons, c'est de s'écarter du modèle défendu par Nicolas Sarkozy, qui apparaît un modèle de bon sens, mais qui en réalité marche sur la tête. Ça, c'est facile à comprendre. Ce que dit Sarkozy, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est la police qui arrive trop tard. Il dit, on va enquêter. Mais quand on enquête, c'est qu'il y a déjà eu un crime. Quand il y a déjà eu un crime, c'est qu'il y a déjà eu une victime. Donc, le modèle de la police qui arrive trop tard, c'est un modèle qu'il faut dépasser. Et là, l'enjeu, c'est d'inventer un nouveau modèle de police pour demain, un petit peu comme on va trouver chez les constructeurs automobiles, par exemple, en France, les constructeurs qui vont chercher à inventer la voiture de demain. Ils vont pas faire plus, la solution au problème d'aujourd'hui, c'est pas faire plus de voitures comme on les construisait hier, c'est de faire une nouvelle voiture. Et c'est ça le projet d'Emmanuel Macron, et je peux dire en deux mots, ce qui peut animer ce projet ou ce qui pourrait l'animer, puisque j'ai pas de responsabilité aux affaires, évidemment. Donc c'est simple. La police de proximité, c'est d'abord la recherche de la satisfaction du public. Ça a été dit par le président Macron. Et l'ajustement aux besoins locaux. Donc c'est une police qui s'intéresse à ce que pensent les gens localement, dans les différentes villes de France, et qui veut essayer de prendre en compte leurs besoins. Pourquoi ? Parce qu'en France, le système de police est très centralisé. Le système de police, il est fait pour répondre aux commandes du président, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, qu'on n'entend d'ailleurs pas beaucoup sur ce thème. Donc c'est une police qui part d'en haut et qui répond aux préoccupations du haut. Par exemple, quand Manuel Valls disait la priorité c'est les ZSP, on fait les ZSP, les zones de sécurité prioritaires, et on les fait pareil sur toute la France. Là, ce que dit Emmanuel Macron, c'est quelque chose de différent. On part du bas, des besoins, et on s'intéresse, et ça c'est radicalement nouveau, et il l'a prononcé, à la satisfaction, un mot inconnu dans la police.
Mais la satisfaction, justement, pour Nicolas Sarkozy, elle consistait à dire qu'il n'y avait pas, alors la phrase est restée célèbre, qu'il n'y avait pas pour mission première de la police, donc de jouer au foot comme on l'a entendu, mais surtout de servir d'assistante sociale. Et lorsque vous dites que c'est une remarque qui finalement conduisait à un mauvais système, est-ce que vous pensez véritablement qu'Emmanuel Macron est en mesure aujourd'hui de faire jouer un autre rôle à la police ?
Eh bien oui, l'autorité politique a le pouvoir de décider les politiques publiques en matière policière, mais c'est le cas en matière de santé, c'est le cas en matière fiscale. Donc l'autorité politique, elle est élue pour décider ce que c'est que la politique policière. Et c'est, on va voir dans quelle mesure Emmanuel Macron va dépasser les difficultés qui peuvent se poser sur sa route, mais oui, et ça suppose d'inventer un nouveau concept. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron dit c'est une réforme ambitieuse, c'est une réforme qui est globale, c'est pas juste une mesure comme on avait vu avec Monsieur Hollande qui avait proposé les récépissés de contrôle d'identité qui ont été enterrés par son ministre de l'Intérieur Monsieur Valls en quelques mois.
C'était une mauvaise mesure.
C'était une mesure ponctuelle. Ce que propose
Une mesure ponctuelle, mais qui symboliquement aurait pu marquer les esprits.
Elle aurait pu, elle n'aurait pas changé le système de police, elle n'aurait pas changé l'ensemble de l'architecture et les manières de faire, mais elle était très symbolique et le renoncement était très symbolique. Maintenant, on s'attaque à autre chose, encore une fois, c'est tourner vers la police vers le bas et faire en sorte que la police rende des comptes aux élus locaux, que la police rende des comptes aux citoyens, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout banal, et c'est même difficile d'en discuter, parce que pour l'instant, on discute que des patrouilles, effectivement, ou des phrases de Nicolas Sarkozy, mais on discute pas du changement de culture qui fait qu'il y aurait une notion de service et de satisfaction aux usagers.
Alors justement, que pourrait faire cette police de sécurité du quotidien, donc le nouveau nom donné à ce qu'on appelait jadis à la police de proximité, que pourrait-elle faire que la police ne fait pas aujourd'hui, Sébastien Rocher ?
Mais encore une fois, donc ce qu'elle devrait faire, si elle est mise en place, elle doit construire des mécaniques pour savoir ce que les gens veulent. Parce que comment vous savez, comment une entreprise fait pour savoir ce que...
C'est pas une police servicielle quand même.
C'est une police... La notion de service de police, c'est pas une expression qu'on utilise beaucoup, on utilise plutôt gardien de la paix ou force de maintien de l'ordre, donc force de l'ordre, gardien de la paix, mais la démocratie a voulu, dans les pays qui nous entourent, les pays du nord de l'Europe, que le service se développe et que la police soit pensée comme un service d'urgence, comme il y a la médecine, par exemple, hein, d'urgence avec des spécialités, là c'est un petit peu pareil, et les pays dans lesquels les citoyens sont les plus contents, les plus heureux, c'est finalement eux qui payent à travers les impôts, c'est nous qui payons. Ce sont les pays d'Europe du Nord, et ben ce sont précisément les pays dans lesquels il y a cette culture de service, l'Allemagne, le Danemark, alors, par exemple, la Grande-Bretagne.
Qu'est-ce qu'elle recouvre, cette culture que vous qualifiez de culture de service pour la police ?
Ben d'accord, prenez le cas, je sais pas, vous prenez le cas d'un hypermarché. Un hypermarché, il se dit, mais qu'est-ce que mes clients veulent trouver en rayon ? Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un hypermarché, il n'y a pas assez de rayonnage.
Voilà. Donc, pour un hypermarché, je vois. Voilà, pour la police, j'ai plus de mal.
Pour la police, c'est pareil. Vous avez des moyens et des ressources limitées. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces ressources ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Le policier, il va dire, le plus important, pour moi, c'est ça. Par exemple, attraper les auteurs de gros délits. Pourquoi ? Parce que le grand criminel fait le grand policier. Donc, il va dire, voilà, ce qui est très important pour moi, c'est de trouver, par exemple, les auteurs de certains grands délits. Ça, c'est la police judiciaire. Ça ne va pas bouger. Mais la place qu'on va donner, par exemple, au fait de trouver les petits auteurs et quels petits auteurs de délits, ça, c'est quelque chose qui peut être discuté localement. Est-ce qu'on a besoin de la même politique à Marseille et à Lyon ? Ben, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Si vous prenez, par exemple, le cas, mettons, de la lutte contre la drogue, est-ce que vous allez le faire tout seul ? Ce que pourrait changer une police de sécurité quotidienne, c'est une approche partenariale, une approche en coopération. Mmh. Le fait qu'il y ait beaucoup de drogues qui circulent, c'est lié au fait qu'il y a une demande. Qui est-ce qui peut agir sur la demande ? C'est pas la police. Qui peut agir sur la demande ? C'est par exemple l'éducation nationale, par la sensibilisation des élèves, et puis les médecins qui permettent aux gens de sortir de l'addiction, et la police qui peut lutter contre un certain nombre de trafics. Donc c'est une approche où il y a plusieurs acteurs. Donc c'est ça qui est porté comme modèle par la police de sécurité quotidienne, c'est une police qui agit en coopération avec d'autres acteurs au plan local.
Sébastien Rocher, on remarque qu'en termes donc de statistiques simples, le nombre de policiers en France est très insuffisant. 169 policiers pour 100 000 habitants, 298 pour l'Allemagne et alors 500 policiers toujours pour 100 000 habitants pour l'Espagne.
Alors, je ne sais pas quelle est la source de ces chiffres, mais je ne pense pas...
Vous les contestez ?
Je ne vois pas du tout qui peut avoir des chiffres de cette nature-là. Il y a un nombre de policiers par habitant en France qui ressemble à la moyenne de l'Union européenne. Et ce qui est vrai, c'est qu'en général, les pays du sud de l'Europe ont un plus gros nombre de policiers par habitant. Donc ma conclusion, elle serait à peu près l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que le problème n'est pas les effectifs. Le problème, c'est le business model. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire avec la police ? Précédemment, on peut avoir plus d'ouvriers. Par exemple, vous prenez chez Peugeot, la solution pour Peugeot, c'est pas d'avoir plus d'ouvriers dans les usines, c'est de produire les véhicules qui vont plaire au public. Et c'est exactement pareil pour la police. La question, c'est d'abord, quel est le business model de la police ? Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette police ? Les policiers se plaignent d'être pas aimés, mais peut-être que s'ils réfléchissaient ou si leur chef réfléchissait à la manière de répondre aux besoins, ils seraient plus aimés. Et peut-être que ça déclencherait donc moins de tensions et moins de violences et moins d'émeutes dans les quartiers difficiles.
Mais encore une fois, c'est quand même très étrange que pour un organe dont la fonction est avant tout une fonction régalienne, la police, vous employez un vocabulaire qui est plutôt issu du monde de l'entreprise. C'est un peu d'ailleurs ce que certains opposants à Emmanuel Macron reprochent à sa politique. Que dirait-on par exemple si on évoquait une justice qui fasse plaisir aux Français. C'est-à-dire, la justice, elle est là, a priori, pour remplir une fonction qui est une fonction globale, qui est une fonction régalienne. Est-ce que la police n'a pas également cette même fonction ?
Non, pas du tout. Et la police n'est pas du tout régalienne. Et ça, c'est une phrase qu'on entend en permanence. C'est une phrase qui n'a pas vraiment de... C'est un mot qui n'a pas vraiment de signification, qui n'est pas défini. Régalien, c'est, dans le vocabulaire des organisations professionnelles, c'est ce que je définis moi-même comme important sans consulter le public. La police régalienne... Ça n'existe pas. Si vous prenez l'Allemagne, par exemple, la police n'est pas une prérogative d'État. C'est d'abord une prérogative des Länder, des unités constituantes. Si vous prenez la Suisse, ce sont les cantons. Si vous prenez l'Italie, vous avez une police locale beaucoup plus présente. Vous avez 43 forces de police en Angleterre. Et donc, il n'y a pas de notion de police régalienne qui tienne vraiment le choc. Il y a différents types de police. Il y a une police qui protège le souverain, les frontières et les officiels. C'est une police de souveraineté. Elle protège les frontières, les taxes et les officiels. Il y a une police d'ordre public. C'est une police qui est chargée de gérer les manifestations, par exemple. Il y a une police judiciaire qui est une police qui enquête. Et puis, il y a une police de sécurité quotidienne, la police du quotidien, celle que nous allons croiser dans notre vie de citoyen ordinaire. Et c'est cette police de sécurité quotidienne qu'il s'agit de réformer. Donc, il ne s'agit pas de réformer toute la police, par exemple la police judiciaire, mais il s'agit de réformer d'abord cette police de sécurité quotidienne, la police qu'on appelle de sécurité publique et qui, encore une fois, n'est pas du tout une fonction régalienne. Elle peut être remplie par des villes, comme aux États-Unis, par des morceaux de territoire, comme en Espagne, au niveau des régions, ou elle peut être pilotée par l'État central. Et la France est une exception de ce point de vue-là. C'est très rare qu'un gouvernement central pilote une police qui est censée prendre en compte les besoins locaux.
Alors on va pousser votre logique, Sébastien Rocher. La police est souvent perçue comme étant illégitime dans certains quartiers, notamment dans les zones dites sensibles. Que peut-on faire pour que cette police soit perçue comme légitime, puisque vous considérez qu'il y a avant tout une obligation pour la police de remplir une fonction, une fonction destinée à la satisfaction des citoyens?
Le gros enjeu, c'est la qualité de la police. C'est un terme, encore une fois, qui est complètement inconnu dans le système de police français. On compte des nombres de délits, des nombres d'interpellations, des nombres de gardes à vue, et on compte que des quantités. C'est comme si vous prenez l'activité d'un dentiste et vous dites combien il a fait de trous dans les dents. C'est pas ça. L'idée, c'est de savoir si on a fait les trous aux bons endroits et à la bonne personne. Donc, cette idée centrale, c'est l'idée de la qualité de la police. Et qu'est-ce que c'est que la qualité de la police ? Elle repose principalement sur le fait, encore une fois, qu'on s'ajuste aux besoins locaux, qu'on s'ajuste aux besoins des gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'égalité. L'égalité devant la police, donc c'est la longue discussion sur les contrôles aux faciès, la discrimination lors des contrôles d'identité. Une police qui ne traite pas de manière égale tous les citoyens ne peut pas être une police qui satisfait la population. Donc l'égalité, c'est au cœur des principes démocratiques, c'est au cœur de la déclaration des droits de l'homme, et donc c'est ce principe d'égalité qui est un élément essentiel de la qualité. Et ensuite, il y a le côté de réponse, encore une fois, aux besoins locaux, réponse, être tourné vers les demandes et rendre des services. C'est ces deux choses-là, le service et l'égalité, c'est les deux piliers de la qualité dans la police.
Et alors, Sébastien Rocher, en matière de satisfaction de la police, il y a aussi une obligation, ça c'est une obligation républicaine, de traitement non discriminatoire des populations. Et d'après les statistiques que je trouve dans votre livre de la police en démocratie, la police française n'est pas très bien placée à cet égard.
Non, et c'est pour ça, encore une fois, que la réforme qui est tentée par M. Macron est vraiment très importante, parce qu'on a une fenêtre tous les 20 ans. 1997, la police de proximité. 2017, la police de sécurité quotidienne. Donc, une fois tous les 20 ans, on a une fenêtre pour réfléchir au modèle de police. C'est pareil que pour les voitures. On dit, voilà, aujourd'hui, quel mode de transport on veut? Quelle voiture on veut? Une voiture électrique? Quelle forme de voiture électrique? Est-ce que la voiture électrique est la solution? C'est pareil pour la police. On veut réfléchir à ça. Et la France, effectivement, il y a une très bonne raison de le faire. C'est que la France est très mal classée en Europe. La police française, comparativement à ses homologues européennes, est perçue comme une police qui est peu égalitaire, qui ne traite pas les blancs et les noirs de la même manière, qui ne traite pas les riches et les pauvres de la même manière. Pour un service public, c'est vraiment une difficulté. Comment devenir légitime si on ne traite pas tous les clients, tous les usagers d'une façon comparable. C'est un des grands défis, hein, s'adapter à des situations difficiles, faire la police différemment dans les quartiers pauvres et traiter tout le monde de manière égale. C'est vraiment ça, les deux grosses patates chaudes que tout le monde a essayé d'éviter et que M. Macron, là, est en train de sortir du placard et sur lesquels il propose de réfléchir avec un certain nombre de consultations.
C'est une perception ou une réalité ?
C'est une réalité.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des comportements discriminatoires dans les commissariats, parmi les policiers aujourd'hui, selon vous.
Oui, pas selon moi. Hein. Non, parce que moi, je suis un chercheur, donc je vous dirais pas ça si j'avais pas des preuves extrêmement solides. Donc, il y a maintenant des études qui ont été menées par des collègues, par observation du comportement des policiers dans les gares parisiennes. Des études que nous avons menées en France et en Allemagne sur plusieurs villes, sur des centaines d'heures qui ont été conduites en patrouille. Dans les villes françaises et les villes allemandes, les enquêtes menées par le défenseur des droits. Et on a maintenant un corpus d'enquêtes qui montre qu'il y a une discrimination. Qu'est-ce que c'est une discrimination ? C'est une différence de traitement qui est défavorable à l'un des groupes. Donc ça ne veut pas dire que les policiers sont des racistes, contrairement à ce qu'on dit. Il peut y en avoir, comme dans n'importe quelle profession. Ça, le racisme, c'est des attitudes individuelles. La discrimination, c'est le résultat d'un fonctionnement d'une organisation, effectivement en France. Et c'est aussi intéressant, le président Macron l'a dit, il a dit « Je suis contre les contrôles aux faciès ». Alors c'était peut-être un lapsus dans son interview, mais il a prononcé la phrase intégralement. Et c'est intéressant de voir qu'au plus haut niveau de l'État, on a aujourd'hui une verbalisation de cette difficulté, c'est quelque chose qui s'est progressivement frayé un chemin jusqu'au sommet de l'État. Aujourd'hui, c'est dit.
Alors, est-ce que ces traitements discriminatoires, ils tendent à s'atténuer d'après les chiffres dont vous disposez ?
On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas d'études régulières menées par le ministère de l'Intérieur. Comme la qualité de la police n'existe pas, c'est une notion qui n'existe pas. Les outils pour mesurer la qualité de la police n'ont pas été développés en France. Donc, le ministère n'a pas de système de mesure régulier de l'égalité du service. Ce qu'on sait, c'est par des études répétées, mais qui portent sur des publics distincts à chaque fois, que cette discrimination existe et donc il serait bénéfique pour tout le monde, y compris pour les policiers et pour les usagers, il serait bénéfique d'essayer de trouver les bonnes manières de limiter ce problème.
Sébastien Rocher, De la police en démocratie, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Grasset. Nous avons évoqué avec vous la manière dont la population vivait avec sa police. On va voir maintenant comment la police française vit sa condition, sa situation au quotidien. Et on vous retrouve dans quelques minutes pour évoquer ce thème. Vous serez rejoint par Olivier Norek, qui est romancier, écrivain et lieutenant de police en disponibilité.